qui m'a donné envie. Ben, en fait, moi, je travaille sur ces thématiques d'engagement, pour dire un peu les choses un peu vite et un peu comme ça, un peu brutalement, sur des histoires d'engagement, de violence politique, de militantisme. C'est pas né avec l'affaire Tarnac pour moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me tient à cœur dans mon travail de documentariste et qui a pu se... Voilà, que j'ai traité ou maltraité ou que je me suis coltiné dans d'autres films. Et donc Tarnac, ça, c'est apparu un petit peu comme presque naturellement dans mon travail. Il y a un élément qui est, je pense, un petit peu fondateur, si j'essaie d'y repenser. C'est pas tant l'affaire Tarnac en elle-même que le rôle du policier infiltré, en fait. C'est comme un personnage qui m'a alerté ou... Voilà, j'ai eu envie de me plonger dans cette histoire-là. Donc, je l'ai abordé un petit peu de biais, cette affaire. Avant les histoires de procédures d'arrestation, de procès, d'antiterrorisme, il y avait l'histoire de cet agent secret trouble.
Le documentaire s'intitule « Tarnac quand tout déraille ». Ce documentaire révèle les insuffisances de l'enquête et, en plus de ça, le vide global du dossier. Est-ce que vous êtes parti avec des intentions claires ou le documentaire s'est fait au fur et à mesure ?
Non, je pense que j'étais un petit peu... J'avais mon propos parce que c'est pas quelque chose que j'ai complètement inventé. C'est-à-dire que cette histoire de mise en question de l'antiterrorisme et des failles du dossier, c'est quelque chose qui est relativement communément admis maintenant. Tous les gens qui se sont un petit peu penchés sur l'affaire le reconnaissent ou le remarquent, disons que ça saute aux yeux. Donc je suis pas du tout le premier. Donc j'avais cette idée déjà. Enfin, j'avais, disons, presque cet a priori ou cette vision des choses parce que je connaissais un petit peu l'affaire avant de me plonger dedans pour le film. Mais ce que j'ai découvert ou ce que j'ai appris ou ce que j'ai construit aussi, parce qu'il faut toujours un petit peu se mettre en question et puis voir qu'on construit aussi les choses dans un film, c'est cette chronologie un petit peu resserrée comme ça de l'année 2008, tout ce qui est en amont en fait des arrestations. C'est-à-dire qu'il y a le moment des arrestations et puis il y a tout ce qui se passe avant. Et tout ce qui se passe avant est très très important. Et en fait, l'enjeu, c'était un petit peu de trouver un début à cette affaire. Et on s'aperçoit que le début, c'est pas forcément ce qui s'est passé sur les voies ferrées à Duisy en Seine-et-Marne, c'est pas forcément les arrestations, mais c'est peut-être en amont, quelques mois plus tôt ou même quelques années plus tôt.
Alors, l'histoire a maintenant une dizaine d'années. Est-ce qu'il est possible pour vous de nous faire un résumé des grandes lignes, des grands axes de cette affaire ?
Ouh là là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un vrai travail de ramasser sa pensée, d'avoir les choses claires. C'est une affaire qui a plein de facettes et plein de méandres et plein de rebondissements et où il y a eu plein de micro-étapes. Et ça, c'était une des vraies difficultés aussi, de cette espèce d'esprit de synthèse et puis d'essayer de communiquer l'affaire, d'être un petit peu pédagogique. Donc j'ai l'impression de l'avoir un petit peu réussi dans le film. Là maintenant, pour vous, comme ça, en quelques minutes... Ça va être un peu plus compliqué, mais je peux essayer. C'est-à-dire que si on joue le jeu de la façon dont on a appris cette affaire ou dans la façon dont on l'a découvert, il y a donc des arrestations. Un jour, à Tarnac, on est donc en 2008, on est à la fin de l'année 2008, et puis on nous présente un groupe soi-disant d'ultra-gauche, et donc il y en a qui vont en prison, il y a des interrogatoires, il y a des conférences de presse. Il faut se rappeler qu'on est à l'époque de Michel Alliot-Marie, Nicolas Sarkozy qui a été élu un an et demi plus tôt. Il y a un personnage qui est déjà là, qu'on voit d'ailleurs dans les images, qui s'appelle Guillaume Pépi à la SNCF. Enfin bon, il y a toute une machine médiatique qui se met en branle. Et puis rapidement, la presse va retourner sa veste ou va retourner son point de vue et puis... La presse qui avait été très accusatrice et qui avait pris pour argent comptant la parole de la police et de la justice, elle va tout de suite très vite défendre les miens en examen. Donc et puis après, on est sur un feuilleton. On est sur un feuilleton de plusieurs années avec des remises en liberté, avec des batailles d'avocats contre parquet, avec des tentatives avec la critique de l'instruction de la part des avocats, avec une reconstitution des faits qui n'a pas lieu. Enfin, on est plein de micro-étapes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en question tout ça, mettre en question ce début-là, et de se dire que dès janvier 2008, il y avait eu une sorte d'infiltration policière. C'est qu'ensuite, il y avait des filatures, il y avait des surveillances, il y avait des dossiers, il y avait des commandes de la part du pouvoir politique, etc. Et que donc, les choses étaient... Les choses, il y a une face, disons, visible, et puis il y a une face un petit peu cachée, mais qui n'est pas restée cachée très longtemps parce qu'elle a été dévoilée. Et puis maintenant, tout le monde s'accorde un petit peu à dire qu'il y a quand même une forme d'orchestration, ou en tout cas des failles, ou un manque de rigueur, disons, de l'enquête policière et de l'enquête judiciaire. Notamment, j'y reviens, parce qu'on n'a pas du tout mis en question les renseignements apportés par l'agent infiltré qui était une personne assez borderline. Voilà, donc je me suis un peu égaré dans les grandes lignes, mais bon, voilà.
Vous évoquez les failles de l'enquête, les failles de la justice. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les rapports un peu confus entre le politique, notamment Michel Alliot-Marie, à l'époque ministre de l'Intérieur, les services de renseignement et la justice?
Oui, c'est-à-dire qu'on est à un moment où on est aussi dans une période compliquée avec des enjeux au niveau politique entre Nicolas Sarkozy, son gouvernement, la ministre de l'Intérieur. Et il y a donc plein comme ça d'hypothèses ou de théories qui disent que Michèle Alliot-Marie, elle aurait été presque, enfin, comme instrumentalisée, ou en tout cas, elle passe des ordres, elle commande des rapports. Alors les RG qui sont en train de disparaître, parce que ça va être la naissance de la DCRI, qui ensuite donnera naissance à la DGSI. Mais à l'époque, ça s'appelle la DCRI, et puis Nicolas Sarkozy veut en faire comme un FBI, en fait, une super police avec des super pouvoirs, etc. Donc on est à ce moment-là aussi, à un moment un peu frontière pour les services de renseignement. Donc tout ça se mêle, en fait, et on a l'impression d'une grande confusion entre les commandes du pouvoir politique, les enjeux qu'il y a entre eux, de qui va tenir qui va avoir le pouvoir à l'intérieur. Est-ce que c'est l'intérieur? Est-ce que c'est les services secrets? Qui dans les services secrets? Qui dans la police? Est-ce que c'est l'ASDAT? Alors la police des renseignements, c'est très compliqué, la police antiterroriste, parce qu'il y en a une partie qui est plutôt un peu judiciaire, qui s'appelle l'ASDAT, et puis il y a carrément les services secrets qui sont comme des services secrets à l'ancienne, quoi, et qui sont donc la DCRI. Enfin, on est dans ce moment-là où il y a aussi une sorte de, après l'élection de Sarkozy, il y a des événements en France, il y a des manifestations, il y a des actions, il y a des choses, il y a toute une radicalité qui prend naissance, et puis le pouvoir politique dit, ben là on tient quelque chose en fait, on tient quelque chose, alors on parle d'action directe, on fait des rapports, on compare avec les Grecs, avec les Italiens, avec des gens qui mettent des bombes un peu partout, on parle de Black Bloc, on parle de plein de choses comme ça, et donc tout ça c'est une espèce de grand fouillis, et puis l'affaire Tarnac c'est comme un truc qu'on va dessiner, on va un peu, ça va être quelque chose qui va plus ou moins prendre une forme dans cette espèce de magma, dans ce magma informe, quoi, de tous les différents rapports de police et de collaboration entre police. Voilà. Donc moi, l'impression que j'ai, pour synthétiser rapidement, c'est qu'ils sont comme pris en tenaille, pris dans un truc, les gens de Tarnac. Il y a un vrai engagement, il y a un vrai engagement radical, on pourra en parler, il y a un vrai goût de la manifestation, et puis il y a comme une fétichisation de l'émeute ou de l'insurrection. Enfin, il y a un truc comme quoi la solution viendra de la rue. Et ça donne des armes au pouvoir pour dire, ben voilà, là, on tient un truc, quoi.
L'événement qui déclenche l'affaire, c'est la dégradation ou le sabotage d'une voie SNCF à Duisy, en Seine-et-Marne, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008. D'après vous, qu'est-ce qui fait que, immédiatement, le groupe de Tarnac est considéré comme étant forcément coupable par le procureur Jean-Claude Marin, et aussi coupable d'intentions terroristes violentes?
Alors c'est très compliqué cette nuit-là, elle est très étrange cette nuit. Moi j'ai envie presque de dire, c'est pas dans le film, mais en y repensant aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, il s'est rien passé à Duisy, ou en tout cas le sabotage, pour paraphraser un peu comme ça, Derrida sur la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, le sabotage n'a pas eu lieu, ou la nuit de Duisy n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que c'est un moment très, très, très étrange. On est donc en Seine-et-Marne, sur un territoire très plat, et puis il y a effectivement des lignes de chemin de fer, des lignes de voie rapide, en fait, où il y a les TGV qui passent. Et puis là, il y a une filature policière qui s'est mise en branle un peu plus tôt dans la journée, et Julien Coupard et sa compagne Hildune Lévy ont été suivis, avec sans doute aussi des balises, c'est-à-dire en fait comme des GPS accrochés à leur voiture, ce qui fait que quand même, quand on les perd, on continue à pouvoir les suivre. Et je crois, alors Ça va être vraiment, j'ai pas trop envie en fait de m'attarder là-dessus parce que le procès il va refaire cette nuit-là. Le procès il va refaire cette nuit-là, les uns vont dire on les a vus, on les a pas vus, on a fait ça, et puis les autres vont dire on était là, mais on n'était pas exactement là, etc. En tout cas, c'est très compliqué et on sait pas qui était où et on sait même pas, donc on pense peut-être selon la police que Julien Coupa et Elvin Lévy étaient à un moment au bord des voies, mais on n'en sait absolument rien parce qu'il y a plein d'incohérences dans les rapports, dans les filatures, dans les heures, etc. Tout ça a été très très bien démonté par la presse en fait. Moi j'arrive vraiment après coup là-dessus, c'est-à-dire que je re-raconte cette histoire, mais tout ça a été très très bien décrit. Et puis, ce qui est plus étonnant d'ailleurs, c'est qu'on ne sait même pas en fait si les policiers étaient là. C'est-à-dire qu'à un moment, on se demande même, mais ils étaient où en fait? Ils étaient en train de prendre un café plus loin, à 10 kilomètres, ou alors ils avaient perdu les suspects, et puis ils les regardaient comme ça sur un petit écran d'ordinateur avec un GPS et un point qui fait bip bip bip, comme ça, comme dans un jeu vidéo. Donc en fait, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est si jamais les policiers étaient là, comment est-ce que ça se fait qu'ils n'ont rien vu? Et qu'ils n'ont pas vu donc la pose de ce fameux crochet, qu'ils n'ont pas vu les gens sur les rails, et qu'ils n'ont pas vu les gens dans les voitures rentrer, sortir des voitures, etc. Donc c'est une vraie nuit de zone d'ombre, une vraie nuit qui fait très polar, mais polar un peu ambiance, comme ça, où il y a des espèces de policiers qui sont là dans la voiture, et puis qui s'absentent, et puis qui suivent des suspects qu'on voit même pas. Enfin, il y a une espèce de truc assez irréel, en fait. Et on en fait le centre de l'affaire. Mais finalement, c'est pas grand-chose, quoi, Duizy, je pense.
Alors, vous dites que Duizy, c'est pas grand-chose. Pourtant, ça va être rapidement qualifié d'acte terroriste. La presse va immédiatement suivre les propos du procureur et de la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie. Vous êtes documentariste. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de la presse de l'époque ?
Alors c'était pas mon enjeu, disons, la critique de la presse. C'est pas vraiment un film d'analyse d'image ou de mise en question de la presse, etc. Mais on peut pas s'empêcher quand on relit les coupures de presse ou quand on revoit les images, etc., de sourire. C'est-à-dire que sur le moment, c'est pas du tout drôle. C'est sans doute même terrifiant. C'est-à-dire que ça fait peur, là. C'est comme la France a peur, quoi. Et puis pour les gens qui sont arrêtés, c'est aussi un truc très, très, très oppressant, enfin très flippant. Je crois que Julien Coupa raconte qu'en gros, il y a des individus mal famés ou à la mine patibulaire qui sont rentrés chez lui et qui lui ont fait peur et qui ont fait peur aux enfants et qui ont... Enfin voilà, il y a une espèce de vrai... Là, il y a une vraie violence avec ce que c'est que les moyens de l'antiterrorisme et puis de menaces. On nous fait croire qu'il y a une menace, qu'il y a une lutte armée. Enfin, on nous fait... Donc, à l'époque, on est très dans la montée de la tension. Maintenant, quand on regarde ça aujourd'hui, on rigole, on se dit que c'est un cirque. Et puis la conférence de presse de Jean-Claude Marin, et puis les interventions de Michèle Alliot-Marie à l'Assemblée, ces archives-là qui sont dans le film, elles donnent un côté un petit peu presque ridicule ou pathétique ou un peu dérisoire, quoi. La presse s'est emballée, la presse, elle a été très vite dans un sens, elle s'est retournée très très vite, et c'est flagrant à quel point tout le monde était tout d'un coup pour Tarnac. Et puis on ressort aussi des moments de François Hollande ou d'Arnaud Montebourg qui parlent du romantisme de Tarnac. La presse, elle va très vite dans un sens, elle va très vite dans l'autre, et puis il n'y a aucun moment où elle trouve la juste mesure, et le moment où elle s'oppose. En fait, je dis ça, je pense que ce que je préfère de la presse à ce moment-là, c'est les tribunes, en fait, c'est les lettres ouvertes. Et il y a tout un tas de... C'est aussi un des trucs que j'avais envie de travailler dans le film, c'était la langue des gens de Tarnac, leurs textes. Alors pas forcément les textes qu'on leur attribue, c'est-à-dire le fameux Insurrection qui vient, et puis où il y a eu plusieurs... qui a été suivi par d'autres volumes depuis ces dernières années, mais tout simplement leurs lettres ouvertes dans la presse et qui sont publiées. Donc là, il y a une sorte d'accueil de la presse qui à bras ouverts, qui publie leur tribune en pleine page. Et souvent, c'est des textes assez beaux. Il y en a quelques-uns qui sont lus dans le film, et notamment un moment où ils disent « on ne respectera pas le contrôle judiciaire ». C'est un moment où on leur interdit, je crois, de revenir vivre à Tarnac ou de se voir entre eux. Enfin, il y a un truc comme ça. Et là, ils disent « on va désobéir ». Et puis la manière dont ils décrivent, en fait, qui les lit, ce à quoi ils tiennent et tout ça, c'est des moments qui sont beaux. Donc en fait, de la presse, je garderai ce paradoxalement, pas les textes des journalistes qui reprennent la parole de la police, mais je garderai l'opportunité qu'on a eue de découvrir en fait cette langue de Tarnac.
Vous l'avez dit, la surveillance des inculpés de Tarnac a commencé avant la nuit du 7 au 8 novembre 2008. Et avant cette nuit, on a vu apparaître un personnage assez sulfureux, un fameux Mark Kennedy, agent des services secrets britanniques. Vous pouvez nous présenter ce personnage ?
Oui, alors c'est quelqu'un dont on a relativement peu parlé en France. Il y a eu un article de Camille Polony qui travaillait à l'époque dans les Inrecuptibles, et parce qu'il a été démasqué en fait, il a été démasqué par les activistes qui l'avaient infiltré. Mais c'est quelqu'un qui est super connu en Angleterre, et il y a plein d'enquêtes ouvertes, et il y a vraiment des commissions parlementaires, parce qu'en fait il est comme la figure de proue, enfin il est comme l'iceberg de tout un monde de policiers infiltrés qui ont eu un comportement scandaleux, notamment avec des histoires de vivre avec des parce que c'était souvent des hommes, donc de s'immiscer dans la vie de femmes activistes, et puis de nouer des relations sentimentales, amoureuses, sexuelles, et puis parfois même de se marier, de faire des enfants, enfin, et puis du jour au lendemain, quand la mission était finie ou quand les renseignements étaient obtenus, de disparaître. Enfin, il y a un côté James Bond, mais un James Bond un peu glauque, très très comme ça. Donc lui, il est donc anglais, il infiltre les activistes britanniques, mais il va se retrouver sur la route des gens de Tarnac. Alors là, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un petit peu, sans doute, par capillarité. C'est-à-dire qu'il suit quelqu'un qui lui-même est en contact avec les gens de Tarnac. Donc il se retrouve à la ferme, il se retrouve à la ferme de Tarnac, il se retrouve dans la région, il croise Julien Coupa et Eldune Lévy dans un appartement à New York. Et puis tout ça, c'est filmé par des caméras du FBI. Enfin là, on est dans une affaire vraiment dans un polar, quoi. Voilà, la réalité dépasse la fiction, c'est-à-dire on se dit, mais quand même, c'est incroyable cette histoire, quoi. Et puis en fait, c'est assez banal, c'est juste le travail d'information de la police. Le problème, c'est que ce bonhomme-là, Mark Kennedy, qui a disparu maintenant, il a quitté la police, tout le monde le cherche, on ne sait pas du tout où il a sans doute refait sa vie ailleurs, peut-être changé de visage, ou j'en sais rien, ou je sais pas quoi, il y a différents bruits qui courent. Voilà, enfin, le problème, en tout cas, c'est que toutes ces informations qu'il a apportées, elles sont au début de l'affaire Tarnac. Et c'est jamais vérifié, corroboré, alors que par ailleurs, ces informations sont contradictoires. De temps en temps, il dit ils sont super dangereux, ils font ça, ils s'entraînent dans la forêt, etc. De temps en temps, il dit mais en fait, ils sont jeunes, ils sont immatures, ça sert à rien, en fait, ils sont complètement... il faut pas les prendre en sérieux. Donc il raconte un peu tout et n'importe quoi, il se livre dans ses rapports de police, mais il se livre aussi beaucoup aux médias, après qu'il ait été démasqué. Et donc on a ce mec-là qui est à moitié fiable, mais vraiment à moitié, genre plutôt un quart fiable, ou peut-être même seulement 10% fiable. Et puis il est comme parole d'évangile, c'est-à-dire que le dossier est construit à partir de ces informations-là, et jamais ça sera remis en cause. Au point que des années plus tard, la police veut un peu vérifier. Alors attends, Mark Kennedy, il a cité le nom d'un village. Alors on essaie de retrouver ce village-là, mais on trouve pas, il y a trois villages qui portent le même nom, alors c'est lequel? Enfin, c'est impossible de vérifier ces trucs, ces dires et tout ça, et donc on devrait lui apporter une importance relative, quoi. Or, il est à la base d'énormément de choses dans cette affaire. Voilà. Pour faire mon auto-critique, ou pour nuancer un tout petit peu le truc, je vais dire, comme on dit le bâton pour me faire battre, je lui apporte beaucoup d'importance. C'est-à-dire que objectivement, il est dans les rapports, il est là, ces informations, incognito, anonyme, hein. Enfin, on ne cite pas Mark Kennedy, mais on peut recouper, on sait que c'est lui qui a apporté cette information-là. Bon. Donc il y a une part de... Effectivement, il est à l'origine de l'affaire. Et en même temps, je dois avouer que ça m'intéresse de lui, de traiter ce personnage-là, de le traiter comme un personnage, et notamment de le mettre en regard avec Julien Coupa sur cette histoire d'invisibilité, de désir de ne pas apparaître, et puis d'être les deux absents du film, en fait. Voilà, les deux absents du film, je pars sur leurs traces, je joue ce jeu de mise en regard comme ça, ça ne tient qu'à moitié, c'est qu'à moitié rigoureux. Là, je suis sans doute un tout petit peu moins pédagogique, documentariste, etc., mais un tout petit peu plus pas comme du côté du roman, en fait, ou un truc comme ça. Je suis pas loin de la réalité, je pense. C'est juste mon regard sur cette affaire, voilà, je les mets l'un en face de l'autre, et puis il y a 1000 images de Mark Kennedy sous tous ses aspects, déguisé en activiste, en jeune flic, en je sais pas quoi, et puis il y a pratiquement aucune image de Julien Coupa qui fuit les caméras, qui ne veut pas apparaître, qui ne veut pas comparaître, et puis voilà, il y a cette espèce de, il y a l'ennemi public Julien Coupa, et puis il y a le faux Robin des Bois Mark Kennedy qui rendait service à tout le monde, qui était le super mec, super marrant, super cool, etc., mais qui en fait était le shérif chargé d'arrêter tout le monde, quoi.
Quand on se penche sur le dossier, sur la procédure, sur les événements, On se rend compte que dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, trois autres crochets ont été déposés sur d'autres lignes SNCF. Une piste allemande a été évoquée, mais il n'y a pas eu d'enquête sérieuse lancée dans cette direction. On a aussi un témoin à charge qui reconnaît avoir signé une déposition sans en connaître le contenu, sous la pression des policiers. Le juge d'instruction Thierry Fragnoli a été dessaisi parce qu'il menait une instruction trop à charge. On avait un groupe qui était sous filature, qui était infiltré. On a plus de 15 000 heures d'écoute téléphonique pour avoir finalement un dossier quasiment vide. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un tel fiasco politico-judiciaire, comme vous le dites dans votre documentaire?
Il y a un emballement, il y a une machine qui se nourrit elle-même, il y a plein d'intérêts en jeu, il y a des intérêts de la police, il y a de la justice, il y a l'impression de tenir quelque chose. Et puis il y a une contestation de la société, il y a un vrai affrontement politique, c'est-à-dire que les gens de Tarnac assument complètement la violence aux manifestations, le désir de renverser la société, d'abattre le capitalisme, l'émeute, l'insurrection, le fait que le changement de la société, que le bien de l'humanité, que nos relations affectives, que la vie sera meilleure. Mais tout ça à partir d'une étincelle et tout ça à partir de violence. C'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a un vrai. Ça, c'est un moment, c'est Éric Azan qui est l'éditeur de l'Insurrection qui vient, qui le dit. On a beaucoup, il le dit en rigolant. Il dit on a beaucoup critiqué Alain Bauer d'avoir manipulé cette histoire. Alain Bauer, c'est un criminologue avec tous les guillemets qu'il faut et qui le premier serait tombé sur l'Insurrection qui vient et qui aurait dit que c'était un livre super dangereux. Et Éric Azan, il dit, mais il avait raison, Bauer. Enfin, on peut lui reprocher plein de trucs, mais on ne peut pas lui reprocher ça. C'est un vrai livre subversif. Et donc, il y a ce désir de renverser la société, etc. Tarnac, c'est l'ennemi politique de, je sais pas, d'Emmanuel Macron, de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, pourquoi pas de Jean-Luc Mélenchon, enfin, de tout le monde. Enfin, donc il y a à la fois donc, une espèce d'emballement, un truc pas du tout rigoureux au niveau judiciaire, filature, écoute, infiltration. Il y a un truc qui ne tient pas la route. Mais ce qui tient la route, c'est des activistes parfois cagoulés, un goût de la violence, je le disais, une fétichisation. C'est le seul truc, en fait, qui me fait pas peur, mais qui me fait un petit peu, où là j'ai envie. Ce qui est compliqué dans ce film, c'est la distance, la juste distance, quoi. C'est-à-dire qu'on sent un petit peu que j'appuie un tout petit peu du côté de, voilà, la mise en cause de l'antiterrorisme. Parce que ça saute aux yeux, quoi. Parce que tout le monde le ferait. Je suis pas le seul à le faire. C'est hyper majoritaire, quoi. C'est genre 95% des gens qui vont dire ça. Mais il y a un truc où cette histoire de l'affrontement physique, etc. C'est ça existe quoi. Et ça la police elle s'en occupe. Et puis vous faisiez la liste de tous les éléments à décharge ou de tous les éléments qui sont en faveur des mises en examen. Mais il y a quelques éléments troublants, c'est-à-dire la présence de Julien Coupa et d'une Lévy le soir des dégradations, pas forcément au bord de la voie ferrée, mais en tout cas dans le coin. Il y a, je sais pas, il y a un passage de la frontière au moment où ils vont aux États-Unis. Il y a des espèces de trucs. On retrouve à un moment des perches dans une rivière. Enfin, il y a des éléments comme ça que tout d'un coup l'accusation elle sort et que, si on veut être complètement honnête, il faut regarder aussi. On peut critiquer ça et tout ça, mais en tout cas, il faut les regarder. Il faut juste prendre le temps d'étudier la question et puis à l'arrivée dire ben on ne sait pas quoi, je sais pas et puis on ne sait pas et puis on s'en rassure tout jamais. Je suis pas du tout sûr que le procès fasse exactement, nous sorte une sorte de super vérité avec un grand V, voilà ce qui s'est passé, quoi.
Justement, dans votre documentaire, il y a un membre du syndicat de la magistrature qui explique que pour elle, la vraie question, c'est pas l'acte de sabotage, parce que ou la dégradation, les inculpés peuvent être coupables ou non, mais pour elle, la vraie question, c'est de qualifier ces dégradations en actes de terrorisme.
Ben oui, c'était la vraie question de l'affaire, c'était la vraie question du film, c'était la vraie question de la vie de tous ces gens-là. C'était quand même qui a été d'une certaine manière bousillé pendant 10 ans, c'est-à-dire se faire accuser de terroriste. Après ça, récemment, ça a été abandonné les charges de terrorisme. C'est une immense chance pour les gens de Tarnac de ne plus être considérés comme de terroristes, c'est-à-dire que voilà, on leur a rendu justice déjà une première fois, c'est une première victoire pour eux. Et en même temps, ça va énormément compliquer les choses. Parce qu'on a envie et on a besoin de faire le procès de l'antiterrorisme et de voir en quel point la SDAT, la DCRI, les renseignements généraux, les flics antiterroristes, les agents anglais antiterroristes, on a envie de mettre de l'antiterrorisme partout et on a envie de se coltiner la question de l'antiterrorisme. Mais à partir du moment où la justice a dit non, non, on s'excuse en gros, enfin on s'excuse pas, mais c'était pas du terrorisme, là ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que le procès et le juge ou la juge vont avoir envie de dire restons-en à la nuit des faits, restons-en à cette scène de crime, de duisy, de pose d'un crochet sur une caténaire, restons-en à cette histoire de violence en manif. Qu'est-ce que vous faites exactement? Pourquoi vous vous cagoulez? Pourquoi quand vous vous faites arrêter, vous ne voulez pas donner votre ADN? Pourquoi vous avez une fausse carte de sécu ou je ne sais pas quoi à un moment, un truc comme ça? La justice va les entraîner sur un terrain très 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 concret, très très petit, très très comme ça, où il y a des peines de prison très très fixes, très définies, des petites peines, des trucs qui embêtent un peu tout le monde. Et en même temps, c'est pas ça l'enjeu de la bataille, et c'est pas ça qu'on aimerait tous faire ou qu'ils aimeraient faire, mais là-dessus tout le monde les soutient. C'est-à-dire tout le monde a envie et tout le monde a besoin et la société a besoin d'un procès de l'antiterrorisme, ou pas un procès de l'antiterrorisme, mais un procès dans lequel on pourrait interroger l'antiterrorisme. Ses méthodes, ses désirs, ses objectifs, ses secrets cachés, ses vices, ses fantasmes, voilà, tout ça. On voudrait qu'il y ait l'antiterrorisme dans les salles du palais de justice, mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas comment ça va se passer.
Dans le documentaire, on sent aussi que la société actuelle a du mal à nommer les choses et que certaines choses lui échappent. On entend les termes euro-anarchisme, black blocs, zadistes, activistes, autonomistes, ultra-gauche. C'est révélateur de quelque chose ?
Ouais, ces étiquettes-là. Et puis il y a aussi le fameux truc des étiquettes où on colle de noms, en fait, ultra-gauche ou anarcho-autonome. Et puis comme ça, c'est des mots tirés, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il y a un mot en grammaire comme ça ou en linguistique. En fait, on fait un fourre-tout, en fait, à partir de deux mots, on en fait un troisième, et puis on imagine que c'est un concept, on se dit que c'est un concept, et puis on fait des catégories. En Angleterre, le Mark Kennedy, il s'occupait du, je crois que c'était le domestic extremism, l'extrémisme domestique, l'extrémisme intérieur, ou le terrorisme intérieur. Enfin bon, il y a effectivement une manière de le langage, c'est important, la façon dont on nomme les choses et dont on peut à la fois rassurer ou bien faire peur ou bien inquiéter. Bien, c'est une manière de voilà, de, j'invente rien, mais c'est on saisit le réel, c'est une manière de définir et de border les choses. Donc on a beaucoup nommé les choses dans cette affaire. Et puis il y a un moment dans le film où il y a comme ça une liste de noms, d'étiquettes, et puis on se demande. On cherche la bonne manière de nommer ces gens-là dont on parle, je sais pas. Flic, c'est facile, agent secret, c'est facile, et encore, on est un peu grossier quand on dit ça, il y a sans doute plein de nuances. Mais pour les gens de Tarnac, activistes, insurrectionnels, je sais pas, à un moment, il y avait les appellistes, les zadistes, les quoi, les black blocs, tous ces trucs-là, on a l'impression que chaque mot est frustrant et décevant, et peine échoue à décrire la réalité qui est bien sûr complexe, multiforme, etc. Mais en même temps, on peut pas faire sans les mots, on peut pas faire sans le langage, je sais pas. Surtout quand on fait des films, puis des films avec beaucoup de commentaires, parce qu'il y a beaucoup de voix off dans le film, et on est un petit peu obligé d'en passer par les mots. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'il faut, et ce qui est nécessaire, je crois, c'est de critiquer les mots qu'on met, et de les interroger, de prendre du recul, et de se dire, voilà, j'ai choisi de les appeler comme ça, mais pourquoi? Est-ce que ça convient? Est-ce que c'est bien? Etc. Ce travail de remise en question, c'est évidemment le travail que jamais, jamais, jamais la police ne fait. L'antiterrorisme ou la justice. Jamais, jamais, ils ne se remettent en question. Ils disent, bon, on les a appelés comme ça, mais peut-être que ça ne correspond pas à la réalité. Ça, c'est un truc qu'on n'entendra jamais, quoi.
On a évidemment toujours besoin des mots. Et à ce sujet, dans votre documentaire, le narrateur a cette formule pour qualifier les inculpés de Tarnac. Je cite, « Des épiciers philosophes activistes qui ont sans doute trop lu et écrit pour se tenir totalement tranquille. »
Oui, c'était un petit peu, je me suis un petit peu amusé à écrire ce moment-là. Ça s'accompagne d'une image où on voit des manifestants avec... qui affrontent la police, des manifestations violentes. Je crois que c'est en Italie, mais ça avait eu lieu en Angleterre de la même manière. Moi, en France, je crois, c'est avec ce qu'on appelle des book blocs, en fait. C'est pas des black blocs, c'est pas des gens déguisés, j'ai envie de dire déguisés ou habillés en noir. Mais c'est des gens avec des boucliers sur lesquels on écrit des titres de livres. Et pour moi, c'est une des... Et je dis dans le film que c'est l'image clé, ou c'est une image signifiante, en tout cas. C'est une image qui me parle et c'est une image qui me touche. C'est-à-dire se protéger, aller à l'affrontement, se protéger, prendre des coups avec des titres de livres et des titres de grands classiques. Je me souviens plus, mais c'est Joyce. Il y a un moment où c'est Coming Insurrection, c'est l'insurrection qui vient. Il y a des manifestants qui ont le bouclier. Enfin, en tout cas, il y a l'histoire du livre, quoi. L'histoire des livres, l'histoire, c'est ce que je disais sur la langue, ou l'histoire des mots, etc. Il ne faut pas oublier qu'on est dans... On est avec les gens de Tarnac. C'est toujours un peu décevant, hein, parler du langage, mais de l'appeler les gens de Tarnac, les mises en examen, les inculpés. Julien Coupa et ses amis, les Black Blocs, les épiciers, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, on est dans un truc où il y a l'univers du livre. Le peuple, c'est le peuple du livre. Il y a une très belle, où il y avait, je sais pas si elle existe encore, une bibliothèque à Tarnac, qui avait été d'ailleurs, pas séquestrée, mais enfin, visitée par la police, qui avait relevé les titres de tous les livres. Et puis ça avait donné, je crois qu'il y avait un poète ou un écrivain qui avait fait comme ça une liste, où il y avait des gens, voilà, qui les avaient défendus et qui avaient fait comme un truc de poésie orale, où il déclamait la liste des livres de Tarnac qui avaient été rajoutés au dossier. Et donc, le livre, il est toujours, toujours, toujours là dans cette affaire. Parce qu'on est sur un truc de comment définir le réel, et quel monde on veut, et quelle société, et ça passe par la langue, et en tout cas la langue écrite. Voilà, la langue écrite, les mots, il y a une vraie hauteur de vue, quoi. Quoi qu'on en dise, on peut critiquer la violence, on peut critiquer le fait d'abattre le capitalisme, on peut critiquer je sais pas quoi, on peut tout critiquer. Mais le verbiage, je sais pas pour dire les, pour être un tout petit peu méchant, la langue, la belle langue là, les mots, le plaisir, là, voilà, c'est là quoi. C'est là et j'avais envie de le faire entendre, et sans doute pas assez là dans le film. C'est pas moi qui fais la voix off, c'est pas moi qui dis la voix du narrateur, mais j'avais envie et je me suis amusé, c'est comme un clin d'œil de que ce soit ma voix qui lise l'extrait de l'insurrection qui vient. Là, il y a une espèce de jeu, pas d'identification, mais il y a un truc, c'est de reconnaître ça, de le reconnaître cette qualité là. Voilà, qui que ce soit qui l'écrit d'ailleurs, peu importe que le texte soit anonyme, qu'il reste anonyme. Maintenant, on cherche même plus à... C'est marrant d'ailleurs, je fais une parenthèse, on cherche même plus, on se préoccupe même plus de savoir qui l'a écrit ou pas. Il y avait une interview l'autre jour à la radio, sur une grande radio de Julien Coupa et Mathieu Burnel, et puis la journaliste qui les interviewait n'arrêtait pas de dire « dans vos livres, dans vos livres, dans vos livres ». Et puis, il prenait même plus, c'était amusant, il prenait même plus le temps ou la peine de préciser, de dire « mais on n'a jamais... » dit qu'on l'avait écrit ou pas écrit ou je sais pas quoi, etc. Il laissait filer, quoi. Je crois qu'on laisse filer maintenant cette histoire de qui est l'auteur. En fait, voilà, simplement, il y a une histoire d'acceptation comme ça. Cette affaire-là, elle dure depuis tellement longtemps qu'à un moment, il y a aussi plein de choses sur lesquelles on laisse filer, quoi.
Les inculpés et les habitants du village de Tarnac sont absents de votre documentaire. Pour quelle raison ?
Parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. C'est marrant de poser la question à la fin, c'est presque une question de début, quoi. C'est, en tout cas, pour moi, c'était la question de début, parce qu'à partir du moment où donc ils m'ont dit et redit, parce que j'ai insisté, c'est-à-dire que même quand ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas envie d'y être, j'ai réinsisté de toutes les manières, j'avais envie de leur présence, sous je sais pas quelle forme, sous entretien, et peut-être à partir du moment où c'était pas possible l'entretien, sous une autre forme. Filme même des images, ou prendre des extraits de choses qu'ils auraient tournées, ou je sais pas quoi. Tout était inventé pour moi. Mais bon, c'était niette, 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 niette. C'était non, un nom un peu dur, un nom sec. Il n'y avait pas de négociation possible. J'ai pas l'impression de les avoir trompés sur ce que je voulais faire. Mais voilà, je suis revenu plusieurs fois à la charge, sans doute un peu trop, j'étais un peu insistant. Mais c'était non. Et puis, il fallait en prendre acte, et puis faire un film sans eux. Et le film sans eux, c'est ce qui permet aussi de s'engouffrer. Ça aide pour cette histoire de distance. C'est-à-dire que là, moi, j'ai comme une marge de liberté. Et puis, je m'engouffre dans leur absence. Je mets en regard l'absence de Julien Coupa et l'absence de Mark Kennedy. J'aurais bien aimé aussi qu'il l'infiltrait comme ça. En fait, il y a plein de gens que j'aurais aimé voir et qui sont pas là. Et je me dis que c'est presque une chance, c'est-à-dire de faire un film presque sans personne. Alors après, il y a des gens formidables qui sont là, il y a plein d'intervenants que j'aime bien et qui ont une vraie intelligence, enfin qui ont un vrai regard et qui connaissent cette affaire-là. Mais disons, c'est pas mal aussi de faire un film sans les gens, ou alors de leur foutre la paix, ou alors de partir sur leurs traces, ou de les imaginer, de les réinventer, de les faire entendre dans sous la forme d'archives. J'aime bien le moment où on entend juste la voix de Julien Coupa. On peut jouer avec ça, avec l'absence des gens. Mais leur absence, j'ai pas à la commenter, c'est leur choix qui est hyper, hyper, hyper respectable.
La voix de Julien Coupa, c'est quand il était l'invité de Léa Salamé sur France Inter. D'une manière générale, c'était un documentaire compliqué à réaliser ?
Non, c'était pas compliqué. La chose la moins marrante, la chose la plus comme ça, c'était justement parfois les petits échanges avec eux. C'est-à-dire que tant que je pensais que je pouvais les convaincre, c'était la chose peut-être un tout petit peu plus difficile. Après, sinon, ce qui était difficile, c'était cette histoire de ramasser sa pensée, d'organiser sa pensée, d'avoir une pensée claire. Parce qu'il y a quand même forcément, en fait, c'est de la télévision, c'est pas du cinéma de auteur ou un film qui est destiné à être vu ou en festival ou c'est pas un film militant. Mais donc il y a un côté quand même forcément pédagogique et où il faut expliquer en gros Tarnac pour les nuls quoi, ou Tarnac pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler. Donc il y avait un côté comme ça où il fallait en passer par raconter l'affaire. Et ça c'est un vrai exercice de style, c'est un vrai truc de très 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 scolaire quoi, et qui est pas très marrant à faire et en même temps qui aide, il faut en passer par là. Mais toutes les étapes et les dates et les chronologies et comprendre les différents services de police et tout ça. Donc ça, il y avait un truc un tout petit peu laborieux, quoi. Mais ça fait partie du travail. Et c'est un film sur lequel j'avais beaucoup de doutes sur la façon dont il allait être accueilli. Tous les doutes n'ont pas été levés. Je sais pas, les gens, en tout cas du côté anglais, c'est marrant la différence, mais du côté anglais, les gens sont contents parce que eux, ils sont très demandeurs qu'il y ait ce travail qui soit fait sur l'infiltré, sur les agissements et sur etc etc. Donc il y a un truc au contraire d'un désir de publicité ou des gens, voilà. Donc il y a un truc très presque de reconnaissance, de dire c'est bien d'en parler, c'est important quoi. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont encourageants et qui se dire on n'a pas complètement déçu tout le monde ou des trucs comme ça. Voilà, non, je sais pas, c'était pas très compliqué parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et quand on fait les choses qui vous tiennent à cœur, j'y croyais, j'avais l'impression de voilà, ça me touchait, c'est une affaire qui me touche, ce sont des personnages, des protagonistes, des textes, des situations, des enjeux qui me touchent. Là, je mets le côté exprès, un petit peu sentimental, et ça aide beaucoup, ça, à faire des trucs dans lesquels on met un petit peu de soi.
Le procès des inculpés de Tarnac débutera le 13 mars. D'après vous, ce sera le procès de quoi et qu'est-ce que vous attendez de ce procès ?
J'en attends pas grand-chose. J'ai pas envie d'en attendre grand-chose. J'ai pas envie d'être... comment dire ? Comme il y a parfois une fascination pour les images de violence ou d'émeutes ou de je sais pas quoi, il y a aussi une fascination pour les procès, quoi. Il y a un vrai truc voyeur dans les procès. Et j'en attends pas grand-chose. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer. J'ai envie de les entendre, eux, sur leur défense et sur, je pense que ça peut être, ils peuvent dire des choses intelligentes et intéressantes sur la remise en cause de la société, du système policier judiciaire. J'ai moins d'espérance ou de surprise, ou je pense pas que l'accusation va sortir des trucs extraordinaires ou des trucs nouveaux ou comme une botte secrète, je sais pas. C'est là on joue au jeu du pronostic, quoi. J'ai l'impression de faire des paris sportifs. J'aurais bien aimé qu'il y ait une place, ça c'est ma marotte à moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'histoire de l'infiltré anglais, qu'il soit là, qu'il soit appelé à témoigner, ou qu'il vienne, ou qu'il se pointe. Mais là on est comme dans une série policière, on est dans une fiction avec un coup de théâtre, on ne sera pas du tout là-dedans. Mais je pense qu'il y a il y aurait un vrai truc à faire de ce côté-là, un vrai truc à dire, et ça va être un vrai absent. Puisque les gens de Tarnac, eux par contre, ils vont être obligés de comparaître. Mais lui, personne ne va l'obliger, quoi. Lui va rester absent.
Est-ce que vous voulez aborder un sujet dont on n'a pas parlé ?
Je voulais juste dire que ça m'a, que c'est bien, je suis content. C'est quelque chose que j'aime pas du tout faire et que je fais pas en fait. C'est-à-dire que je suis pas du tout. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier de parler de l'autre côté de la caméra ou de l'autre côté du micro ou être interrogé. J'aime pas du tout, mais je pense que c'est important de là. Et puis en plus chez vous, c'est-à-dire sur le plateau ou dans la région, avec le fait de savoir qu'on peut être entendu à Tarnac ou ailleurs, c'est un truc que je trouvais important et c'était presque comme un passage obligé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je viens un peu de ça, quoi, du cinéma documentaire, mais presque ethno, où on débarque chez des gens, on leur prend une image, mais prendre une image, c'est considéré comme un... on est conscient que c'est un vol, quoi, c'est-à-dire voilà, et puis il faut donner quelque chose en échange et tout ça. Donc je suis pas très à l'aise avec la position du réalisateur documentariste qui vient, qui fait un film. Mais une manière de rendre un tout petit peu, c'est justement parler comme je l'ai fait là, ou accepter cette interview à Radio Vastivière et faire porter sa parole dans la région, parce que je sais que les gens ont beaucoup 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 morflé, ils ont pris cette affaire vraiment 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 en pleine poire, et donc je crois que c'est juste important de rendre compte, disons un petit peu, un minimum, même si ça peut être très 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 insatisfaisant, insuffisant, etc. Mais je crois que c'est important, même, voilà,